Radio Prague, les informations. Bonjour les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce jeudi. Une entreprise tchèque remporte l'appel d'offres pour produire du cannabis à des fins thérapeutiques. Chef de l'État signe la loi de budget 2015 et 3 ans se sont écoulés depuis la disparition de Václav Havel. À l'issue de l'appel d'offres mené par l'Institut national pour le contrôle des médicaments, une entreprise tchèque a été désignée parmi 16 candidats pour être la seule dans le pays habilitée à produire du cannabis à des fins thérapeutiques. Cette société, dont le nom ne peut pas encore être dévoilé pour des raisons d'ordre administratif, sera autorisée à semer, récolter et proposer son produit à la vente. L'objectif est de proposer un cannabis moins cher que celui importé actuellement des Pays-Bas, dont le prix est d'environ 11 euros par gramme. La loi autorisant l'usage thérapeutique du cannabis est entrée en vigueur au printemps 2013 en République tchèque, celle-ci rejoignant le cercle fermé des pays ayant franchi le pas en Europe. Dans une lettre ouverte, les maires des villes et communes situées aux alentours de la centrale nucléaire de Temelin ont demandé au gouvernement la finalisation de la centrale. L'initiative des maires est également soutenue par les conseillers de la région de Bohême du Sud qui l'ont approuvée ce jeudi dans une résolution. Afin de faire pression sur le gouvernement, plusieurs maires se sont également rendus avec des pancartes au bureau régional de České Budějovice, la préfecture de la région. Le ministre des Affaires étrangères tchèque, le social-démocrate Lubomír Zaoralek, recevait ce jeudi son homologue israélien Avigdor Lieberman, qui dirige le parti d'extrême droite Israël Beitenu. Monsieur Lieberman s'est dit très déçu et a condamné la résolution votée par le Parlement européen mercredi, appuyant en principe la reconnaissance de l'État palestinien et la solution des deux États. De son côté, Lubomír Zaoralek a dit respecter la décision des parlementaires européens, rappelant que la position de la République tchèque était de soutenir une solution à deux États, Israël et la Palestine, coexistant pacifiquement sur la base des frontières de 1967. Le chef de l'État, Miloš Zeman, a voté la loi de budget de l'État pour l'exercice 2015. Le projet de budget prévoit un déficit de l'ordre de 100 milliards de couronnes, environ 3,6 milliards d'euros, en deçà du seuil de 3% du PIB tel qu'imposé par Bruxelles. Par rapport à cette année, les recettes attendues sont supérieures de 20 milliards de couronnes, 720 millions d'euros, tandis que les dépenses sont également supérieures, mais de seulement 8 milliards, 290 millions d'euros. Le public pragois a dû plaire à Lara Fabian puisque la chanteuse d'origine belgo-canadienne, a choisi le concert qu'elle a donné le 5 novembre dernier sur la scène du Forum de Karlin pour figurer sur son prochain DVD. Dans le cadre de sa tournée européenne, Le Secret, il était prévu qu'elle donne une date dans la capitale tchèque, mais devant le succès des réservations, il avait été décidé d'en ajouter une seconde. La dépêche de l'agence de presse Tcheteka parle du public pragois comme du plus chaleureux, tandis que l'organisateur de l'événement a fait part de sa fierté, considérant que cette nouvelle était pour lui comme une médaille d'or. On termine avec les célébrations à l'occasion du 3e anniversaire du décès, ce mardi 18 décembre, du dramaturge et ancien président tchécoslovaque puis tchèque Václav Havel. De nombreux événements sont organisés à travers toute la République tchèque. À Prague, le cardinal Dominique Duka célèbre une messe de requiem à l'église Sainte-Anne. Une représentation de la pièce Proteste datant de 1978 a lieu à la bibliothèque Václav Havel et un rassemblement des proches amis de l'ancien président est prévu au café Mlinska Kavarna sur l'île de Kampa. On termine avec la météo, ciel sombre et pluvieux sur la Bohême, à l'ouest, éclairci sur la Moravie, à l'est. Tel est le programme météorologique de ce vendredi 19 décembre, jour de la fête des Esters. Les températures oscillent entre 9 et 13 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Maignan. La suite du programme, c'est maintenant en compagnie de Lucie Draselova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour chers amis, bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce jeudi, nous allons nous pencher sur la façon d'enseigner l'histoire contemporaine en République tchèque. Nous allons explorer différents matériaux qui sont à la disposition des enseignants, avec tout particulièrement 3 nouveaux DVD avec les documents audiovisuels qui viennent d'être diffusés par l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires. Puis nous allons évoquer la rencontre de Thésée qui se prépare pour la fin de l'année à Prague. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous allons fêter les 130 ans du ralliement du quartier de Holešovice à la ville de Prague. Et cela avec Denisa Tomanova à la veille de son propre anniversaire. Bonne écoute à toutes et à tous. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Cette fameuse citation de Winston Churchill, premier ministre britannique durant la Seconde Guerre mondiale, pourrait être un mantra des professeurs d'histoire et pas seulement. 25 ans après la chute du régime communiste, l'enseignement de l'histoire évolue toujours en République tchèque. À la recherche d'un équilibre fragile entre la transmission de connaissances consensuelles et une approche critique, les professeurs sont confrontés également à un autre phénomène, l'ennui manifesté par leurs étudiants pour des cours faisant par trop appel à la mémorisation des faits et données historiques. Pour y remédier et éveiller un plus grand intérêt des étudiants, l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires a préparé différents matériaux devant permettre d'étudier l'histoire comme se lit un roman policier. Comment enseigner l'histoire? C'est la question récurrente que posent de nombreux colloques nationaux et internationaux. Et comment enseigner l'histoire contemporaine de son pays devient souvent une question à connotation politique. Les réponses apportées varient selon les interprétations que l'on fait dans chaque pays de l'histoire, d'autant plus lorsqu'il en va de l'histoire nationale. En République tchèque, l'ONG Člověk v tísni a fait des témoignages personnels d'époque son cheval de bataille en faisant venir dans les lycées d'anciens prisonniers politiques et personnes persécutées sous le régime communiste. Aussi authentique soit-elle, cette approche est parfois critiquée pour son manque de recul et l'absence de vue d'ensemble qu'elle propose sur un sujet source de contentieux politique et qui s'apparente parfois à une vaccination contre le communisme. Dans un contexte où la didactique de l'histoire a cessé d'être une discipline universitaire dans les années 90, l'Institut vient de publier un nouvel ensemble de matériaux destinés aux élèves des collèges et lycées. L'historien Kamil Chinato présente ses documentations distribuées gratuitement dans les écoles en ce mois de décembre, tel un cadeau de Noël.
Il y a trois DVD réalisés selon les thèmes de l'histoire contemporaine. Ils contiennent surtout des sources audiovisuelles, mais il y a aussi des images d'archives, des caricatures et des documents textuels. Les enseignants peuvent ainsi compléter leurs cours. Nous partons du constat que l'histoire est souvent un cours indigeste, trop basé sur la connaissance des faits et la mémorisation des dates. Pour retenir l'attention des étudiants, nous leur proposons tout d'abord de regarder un film, puis de passer à ce qui est peut-être plus lointain, c'est-à-dire à un texte de l'époque pour en arriver à une analyse historique plus complexe. Il y a là à la fois des films de propagande et des fictions, et le tout permet de confronter différentes perspectives sur le même passé.
L'Institut pour l'étude des régimes totalitaires ne diffuse pas ces trois DVD dans un environnement vierge. Au contraire, depuis 3 ans, un projet de grande ampleur est mené par le Musée national en coopération avec les musées régionaux et l'Université Charles. Intitulé « Toucher le XXe siècle », ce projet promeut l'enseignement de l'histoire tchèque et tchécoslovaque du XXe siècle à travers des objets. L'un des objectifs de ce projet a également été l'élaboration de nouveaux matériaux pour l'enseignement de l'histoire dès l'école secondaire. Coordinateur du projet, Pavel Doucha, en fait le bilan.
Nous avons réussi à mettre en place une coopération avec des professeurs de toute la République tchèque. Nous avons préparé plusieurs programmes éducatifs thématiques pour montrer que l'histoire n'est pas une chronologie ennuyante, mais un ensemble de témoignages, de narrations et de traditions. Nos musées disposent d'une quantité impressionnante d'objets d'époque et il serait dommage de ne les montrer que derrière des vitrines. Les objets nous racontent des histoires et nous, en tant que musée, nous les connaissons. Ainsi, nous avons fabriqué des copies de ces articles et avons apporté notre héritage culturel aux écoles.
Grâce à tous ces projets parfois complémentaires, les enseignants disposent d'un grand nombre de matériaux dont ils peuvent se servir dans leurs cours. L'heure a donc peut-être sonné de réhabiliter la discipline de la didactique de l'histoire pour s'interroger en profondeur sur la façon d'enseigner cette matière et ainsi dépasser certains raccourcis en termes de périodisation dont l'histoire récente tchèque a parfois été victime avec les chapitres articulés autour des fameux 8, 1918, 1938, 1948 et 1968 auxquels 1989 constitue une exception qui confirme bien la règle des 8. Du 29 décembre au 2 janvier se tiendra à Prague la 37e rencontre européenne de jeunes de Thésée. À cette occasion, 25 000 jeunes chrétiens en provenance de toute l'Europe sont attendus dans la capitale tchèque pour célébrer dans la paix et la joie l'arrivée de la nouvelle année. À une dizaine de jours du début de ce grand et traditionnel rassemblement œcuménique qui se tient chaque année depuis 1978 dans une ville européenne différente, les préparatifs battent leur plein. Parmi la quinzaine de volontaires de différents pays travaillant dans l'équipe chargée de l'organisation de la rencontre figure un Français. Originaire de Belfort, Mathias Bertin, 25 ans, est présent à Prague depuis septembre. Au micro de Guillaume Narguet, il a expliqué comment se passait la préparation de cette rencontre.
Je pense qu'au début, j'avais l'impression que tout était un petit peu lent parce qu'on arrivait, on commençait à rencontrer des gens, à tisser des amitiés aussi. Lentement, on commençait à se rendre compte un peu de quelle est la situation à Prague et de comment ça se passe. Et là, depuis décembre, tout s'accélère un peu parce qu'on sent que la rencontre approche et il y a de plus en plus de gens, de volontaires qui arrivent de Thésée, je pense, pour venir nous aider. Et aussi de plus en plus de Tchèques ici à Prague qui viennent nous proposer leur aide. Alors c'est beau, il y a une grande famille qui se retrouve pour préparer cet événement.
Pourquoi avez-vous décidé de participer en tant que volontaire à la participation de cette rencontre à Prague ?
Déjà, on m'a proposé et au début, je ne voulais pas parce que je ne parle pas tchèque, parce que je ne suis jamais parti aussi longtemps de mon pays, de la France. Et puis finalement, quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un et que c'était une expérience à tenter, alors je me suis dit, on va découvrir. Et puis je suis venu et je ne regrette pas du tout parce que c'est très sympathique. Et avec le tchèque, on se débrouille un petit peu.
Vous êtes français de Belfort, vous connaissez donc bien la communauté en France, vous avez participé à différentes rencontres européennes. Par rapport à votre expérience de Thésée, votre expérience personnelle, quelle présence de la communauté avez-vous découvert ici en République tchèque? Est-ce que selon vous, Thésée est quelque chose d'important aussi pour les Tchèques? Est-ce un phénomène que l'on rencontre dans d'autres pays? On pense par exemple à la Pologne voisine.
J'ai l'impression que le lien, on va dire, avec Thésée est un petit peu différent. Parce que pour moi, en France, Thésée, finalement, c'est très proche. En termes de distance, j'y vais assez facilement. Et ici, je me rends compte, quand je parle avec les gens, que quand on pense Thésée, on pense déjà beaucoup à la dernière rencontre, il y a 25 ans. Et que les gens l'associent beaucoup à la chute du communisme juste avant. Et pour moi, c'est important parce que je suis né à peu près exactement en ce moment-là, en octobre 89. Et de se rendre compte que, à peu près, que j'ai le même âge que la Révolution ici. Quand on parle de la Révolution en France, pour nous, c'était il y a plus de 200 ans, donc c'est loin. Mais là, de se dire qu'il y a une révolution qui était présente pour les gens et que c'est. Et que la rencontre de Thésée dans leur esprit ici s'est associée à toute cette vague de jeunes de l'Ouest et de l'Est ensemble qui arrivaient dans la rencontre à Prague il y a 25 ans. C'est.
Et quelles sont selon vous les attentes des Tchèques par rapport à Thésée et puis par rapport forcément à cette rencontre qui approche?
J'espère que déjà pour toutes les familles qui vont accueillir des jeunes, ce sera de vivre un bel échange de 5 jours parce qu'il y a un peu de temps, en fait, je pense au petit déjeuner et puis au soir quand les jeunes rentrent dans les familles pour échanger. Et parce que de mon expérience ici à Prague, je me rends compte que les Tchèques sont un peuple très très accueillant. Peut-être au début, un peu comme les Français, hein, au début on est un petit peu réservé, on a un peu peur, mais tout de suite après, je pense, après peut-être une demi-heure, tout de suite les gens, on est plus ouvert et j'aime beaucoup le Jablkovi Kolač ici à Prague.
Gâteau aux pommes. Vous avez évoqué l'accueil dans les familles. On ne peut pas ne pas en parler. À quelques jours du début de la rencontre, il manque encore pas mal de places, pas mal de familles prêtes à accueillir des jeunes. Est-ce que pour vous, dans l'équipe d'organisation, ça a été le principal souci, on va dire, par rapport à cette rencontre ?
C'est un gros souci parce que sans cet accueil, la rencontre ne peut pas se faire. Et en ce moment, surtout dans ces dernières semaines, on est sans cesse en train de regarder nos tableaux de nombre de places à trouver dans les familles ou à trouver. Mais j'aime beaucoup me redire qu'en fait, à chaque fois qu'on reçoit un papier qui dit je suis d'accord pour accueillir 3 jeunes chez moi, c'est un peu plus que des nombres. C'est quand même derrière, il y a quand même une rencontre de 5 jours qui va se faire entre des jeunes et des gens ici à Prague. Et de toutes mes dernières expériences des dernières années, c'était quelque chose de magnifique. Je me souviens de la rencontre en Pologne, à Poznan, où ma première rencontre avec les peuples de l'Est, je pense que c'était... J'avais jamais vu un accueil aussi chaleureux, je pense, avec les gens qui nous refaisaient à manger le soir ou qui nous amenaient du thé. Puis le petit déjeuner polonais, enfin, qui est complètement différent de celui de la France et qui m'a marqué aussi.
Ainsi se terminent nos faits et événements et notre programme se poursuit avec la rubrique « Tourisme ». Le 25 novembre dernier, 130 ans se sont écoulés depuis le ralliement de Holešovice et de Bubny à la ville de Prague. À l'époque, ces deux quartiers étaient encore des villages indépendants. En 1884, Holešovice et Bubny avaient été les premières communes à être ralliées à la capitale sans avoir le statut de ville. À l'occasion de cet anniversaire, le musée de la ville de Prague organise une exposition intitulée Holešovice-Bubny dans l'étreinte de la Vltava, qui restera ouverte au public jusqu'au 19 avril 2015. Même si le nom du village de Bubny a disparu en 1960 après avoir adopté préalablement en 1850 le nom de la commune de Holešovice, découvrons dans cette rubrique préparée par Denisa Tomanova ces deux quartiers historiques et leurs proches alentours.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
À l'origine, Bubny et Holešovice étaient des villages de pêcheurs. Auteur de l'exposition qui se tient actuellement dans la rue Napojici à Prague, historien et auteur du livre Holešovice et Bubny, Jan Jungmann nous en révèle davantage sur l'histoire de ces lieux.
C'est une histoire pleine de couleurs. À l'origine, Holešovice et Bubny étaient deux hameaux de pêcheurs sur les bords de la Vltava. Entre les deux, il y avait des pâturages et des champs où paissaient des moutons, d'où notamment le nom de la rue na Ovčinár, sur la bergerie en français, par où on faisait passer les troupeaux, de même que la rue ou Prugonu à la Draille, qui désigne un chemin de transhumance. La transformation en banlieue industrielle n'a commencé que vers la seconde moitié du 19e siècle. La construction de la voie ferrée, qui a facilité le transport du charbon, mais aussi l'existence d'un port, grâce auquel Prague était reliée à Hambourg, ont été d'une grande importance pour le développement de Holešovice. A potom existence přístavu, pomocí
kterého byla Praha spojena s Hamburgem. La révolution industrielle du 19e siècle va profondément toucher ce quartier pragois. Jan Jungmann décrit l'aspect de Holešovice-Bubny à cette époque-là.
L'industrialisation est faite de façon éclair. De petites usines ainsi que des entreprises plus grandes y ont vu le jour, que ce soit des usines de construction mécanique ou des fonderies. Peu de gens savent, par exemple, que le très talentueux fondeur et sculpteur František Anige avait lui aussi son atelier dans le quartier de Holešovice. Des entreprises d'importance pour la capitale y étaient basées, telles qu'abattoir, une usine à gaz, la brasserie de Holešovice et bien d'autres encore.
Holešovický pivovar a další. Point de repère du quartier, l'église qui se tient sur la place Strossmayrovo na Mesti est dédiée à Saint Antoine de Padoue, le patron des enfants, des femmes, des pauvres et des personnes âgées. Même si le soir venu, Strossmayrovo na Mesti, ou tout simplement le Stross, comme l'appellent familièrement les Pragois, est quelque peu déserté, cela n'enlève rien à son charme de carrefour réunissant Holešovice et Letná, deux quartiers du 7e arrondissement. Sur le Stross, appelé ainsi en hommage à l'évêque catholique et parlementaire croate Josip Juraj Strossmayer, l'église Saint-Antoine vaut le détour. Œuvre de l'architecte František Mikš, il s'agit de l'une des dernières constructions de style néo-gothique à Prague. Inaugurée il y a 100 ans exactement, à l'époque où fleurissait l'art nouveau, l'église Saint-Antoine a donné un souffle nouveau au quartier. Historien Richard Beagle nous en dévoile davantage à propos de cette église.
C'est ici que se termine le grand boulevard, celui qui mène jusqu'au quartier de Letná. Je crois que l'église a donné à ce lieu un caractère de grande ville. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est une sorte de miniature de la cathédrale de Saint-Guy, située au château de Prague, elle-même réalisée par František Mikš en collaboration avec un autre architecte, Josef Motzker. C'est donc l'un des derniers ouvrages du 19e siècle qui a donné à ce quartier relativement jeune une impression d'ancienneté.
À quelques mètres de l'église Saint-Antoine se trouve un bâtiment de petite taille de style néo-renaissance. Construit en 1904, il a servi de bain public jusque dans les années 1980. Ian Jungman précise quel était le rôle de ces bains.
Chaque arrondissement de Prague avait des bains publics. Au début du XXe siècle, les salles de bains privées étaient un luxe que tous les propriétaires ne pouvaient pas se permettre. Les gens allaient se baigner dans la Vltava et parfois allaient se savonner dans les bains publics.
Situé entre les rues Argentinska, Jatečni, Komunardu et le quai Bubenský nábřeží, le marché de Prague, Pražská tržnice, appelé aussi le marché de Holešovice, a été construit en 1895 et servi d'abattoir jusqu'en 1983. À cette date, les 20 halls que compte l'imposant bâtiment ont été transformés en marchés et petits magasins. En 1993, ce complexe a été classé monument culturel. À l'heure actuelle, cet espace de plusieurs centaines de mètres carrés compte toujours diverses boutiques, ainsi que des restaurants, un marché de fruits et de légumes. Depuis début novembre, un centre d'art a investi deux halls du marché, offrant ainsi un lieu exceptionnel aux arts alternatifs et par ailleurs au cirque contemporain. Le centre a été baptisé Jatka 70 Osum, Jatka signifiant abattoir en tchèque. Ce centre accueille différentes troupes tchèques et même des créations internationales. Malgré ses joyaux d'architecture néo-renaissance, le 7e arrondissement de Prague ne cesse de se transformer. Les habitants de la rue Vratejny, une des principales artères du quartier, ont récemment vu s'ouvrir une fosse gigantesque où un centre commercial doit prochainement voir le jour. Même si les travaux n'ont pas encore débuté, cela n'empêche pas Azuzana Stenadova, directrice du musée de la ville de Prague et habitante du 7e arrondissement, d'émettre cette objection.
Ce projet me gêne sincèrement, et ce d'autant plus que Prague 7 est à l'heure actuelle un lieu où les relations de voisinage ont leur importance. Il existe par exemple un grand nombre de petits commerces où les gens se connaissent et aiment aller. Ce centre commercial me préoccupe car il risque d'altérer ce caractère unique du quartier. Le petit quartier pragois pourrait être voué à disparaître.
L'historien Jan Jungmann rappelle quelles ont été par le passé les composantes de la vie de Holešovice a Bubny.
La caractéristique principale de Holešovice Bubny était sa grande diversité des lieux. Letna et les environs de l'avenue Dukalskih Hradinů avec ses superbes bâtiments étaient habités par des gens plus aisés. À l'est de cette avenue, le quartier était en majorité ouvrier, donc plus pauvre. La vie de tous les jours était également très variée. On se baignait le long des quais de Holešovice, certains allaient même se baigner sur l'île de Štvanice, où plusieurs piscines flottantes étaient ancrées. Il y avait un grand nombre de restaurants, de cafés, de bars, avec leur atmosphère propre.
On y jouait du théâtre aussi. Des représentations avaient notamment lieu au théâtre Uranie, situé dans le jardin de la brasserie de Horechovice, et ce depuis sa création en 1902 jusqu'en 1946, date à laquelle le théâtre a disparu dans les flammes. Il était très apprécié du public et avait une influence considérable sur toute la scène artistique de la capitale.
Aujourd'hui, le nombre de cafés et lieux de rencontres a donc considérablement baissé. La célèbre brasserie Uprochasku a été remplacée par une droguerie et le bistrot Osoyku par une banque. Jan Jungmann poursuit.
C'était des foyers de vie sociale. Un des plus grands lieux de rencontre était ce restaurant qui se trouve dans un jardin près du théâtre Uranie. Ce dernier avait été soutenu par le propriétaire de la brasserie de Horechovice, qui était un grand amateur de théâtre. On y avait également transporté un toboggan du parc des expositions. Les visiteurs se divertissaient beaucoup.
Construit en 1891, le parc des expositions en question accueille chaque année des fêtes foraines, des expositions internationales et divers événements culturels, mais doit subir dans les 5 ans à venir une profonde rénovation. En 2008, l'aile gauche avait été complètement détruite par un incendie. Le quartier de Holešovice peut se prévaloir enfin du Palais des Foires, le Vlatežní Palác, qui abrite une grande partie de la collection d'œuvres d'art de la Galerie Nationale. Mais le joyau le plus précieux reste peut-être bel et bien le parc de Stromovka, officiellement appelé Královská obora, la réserve de chasse royale, et qui s'étale sur une surface de 89 hectares. Néanmoins, Jan Jungmann conclut par le fait que tous les lieux du quartier n'ont pas été préservés. Bohužel nedochovala se
oblast starých zátor, která byla podle mého názoru. Malheureusement, la zone appelée Zátory n'a pas été conservée. D'après mon avis, elle a été détruite de façon complètement barbare à la fin des années 1970. À sa place a été construite la gare de Prague Holešovice. Mais je crois qu'une importante partie de ce quartier a été détruite de façon complètement inutile. À l'heure actuelle, nous pouvons toujours y voir des parcelles abandonnées et embroussaillées. Ce qui a beaucoup changé après 1990 fut également le méandre de Holešovice, où la majorité des usines industrielles ont disparu. Les lieux d'autres usines sont passés par une reconversion. Ils ont été aménagés en salles d'exposition, en bureaux et même en appartements. La brasserie de Holešovice a elle aussi été réaménagée. De manière générale, on peut dire que l'ère industrielle est toujours profondément ancrée dans le caractère du quartier de Holešovice. Je možno říci, že ta industriální epocha
stále je výrazně zapsána do tváře Holešovic. Si le quartier de Holešovice reste toutefois un lieu où on ne voit déambuler que très rarement les touristes, il reste un quartier magique dont les lieux méritent une attention encore plus minutieuse.
Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucie Drexelová. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.